Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma.
Bonjour, je suis Florine en classe de 3e au collège Marcel Pirel. Je suis avec Louise. Bonjour Louise.
Bonjour Florine.
Nous sommes ensemble pour parler du Festoc. Nous avons également autour de cette table Alexis Lormeau, chargé de programmation culturelle pour la communauté de communes Angers-Vaudan, Christophe Cosse, chargé de mission d'inspection et coordonnateur académique en Occitan, et Marie-Madeleine, chanteuse du trio de la bande acoustique. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Alexis Lormeau, en tant que coordinateur du Festoc, on va commencer par vous. Quel est l'historique de ce festival Angers-Vaudan ?
Ce festival, c'est sa 4e édition. Donc, il a été créé en 2022, en même temps qu'on a créé la saison culturelle de la communauté de communes du Gévaudan. Et donc, c'est l'événement qui clôture cette saison culturelle.
Alexis, vous-même parlez-vous l'occitan ? Est-ce que vous les comprenez ?
Alors non, je ne le parle pas du tout, mais il se trouve que j'ai des relations familiales qui font fait que je comprends le catalan, donc ça ne m'est pas complètement étranger, j'arrive à comprendre quelques petites phrases, quelques petits mots.
Ok. Y a-t-il un thème particulier pour l'édition de cette année ?
Non, en fait l'idée c'est de partager un moment qui met à l'honneur la langue et la culture occitane dans toutes ses dimensions. Donc il y a des spectacles, un feu de la Saint-Jean, mais aussi des repas, des moments partagés, du sport, parce qu'il y aura même une initiation au tambourin, qui est un sport spécifique de l'Occitanie. Donc voilà, l'idée c'est de révéler un peu toutes les dimensions de la culture occitane sur un après-midi, le samedi 13 juin.
Christophe Cosse, êtes-vous engagé et comment sur le Festoc ?
Moi je suis le Festoc de loin, c'est-à-dire que quand Alexis... m'appelle, je lui dis « Ok, pas de problème, je vais t'aider. » Mais voilà, en fait, je le suis vraiment de loin.
Ok, merci. Et maintenant, nous allons vous parler de la projection qui ouvre ce Festoc. Louise, parle-nous du programme de vendredi soir.
S'agisse des films d'animation titulats « Conte et Doc » qui sera projeté tout dimanche 12 et juin à le cinéma Le Trianon à Binte Ouras. Il s'agit des films d'animation Conte Doc qui sera projeté le vendredi 12 juin au cinéma Le Trianon à 20h. La projection sera suivie d'un échange avec la réalisatrice. Nikita Fraisse y modernise le folklore tout en conservant son esprit d'origine. Ce sont des contes occitans repris à travers une vision humoristique et poétique. Alexis Lormeau, avez-vous vu ces films ?
Donc, oui, je les ai vus. Donc, j'ai eu la chance d'en entendre parler et de pouvoir les voir pour les sélectionner pour cette soirée effectivement d'inauguration du festival au cinéma. Ce qui m'a plu dans ces films, c'est qu'ils sont courts, c'est 10 films de 3 minutes, c'est des dessins animés, donc ils peuvent vraiment s'adresser à toute la famille. Et c'était un peu l'idée, c'était de faire une soirée d'inauguration qui s'adresse vraiment à toute la famille, puisque à la suite, le festival s'adresse à tous. Voilà.
Ok. Et vous, Christophe Cosse, les avez-vous vus et êtes-vous du même avis ?
Eh bien, pas encore. Ce sera pour moi une découverte, puisque je ne les connaissais pas.
Marie-Madeleine, pensez-vous qu'il est primordial de moderniser les contes et les traditions occitanes ?
Moi, je pense que tout ce qu'on appelle musique ou culture de tradition, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose que chaque génération... se réapproprie avec les influences du moment, avec sa manière de voir le monde, avec les transformations que le monde apporte, parce que sinon on parlerait plutôt de folklore, donc qui serait une manière de refaire comme on jouait, comme on chantait, comme on s'habillait à une certaine époque. Voilà, la tradition est vivante.
Merci. Que peut-on transmettre en occitan aux enfants en dehors des contes ?
Tellement de choses. Moi, je dirais la musique, le chant.
Oui, la musique, le chant. Et après, c'est une langue vivante. Enfin, là, moi, je suis arrivé dans cette pièce. Depuis que je suis arrivé, il y a tout le temps quelqu'un pour parler en occitan. Donc, on peut tout transmettre. Voilà, mais oui, on a vu que les chants en occitan permettaient de transmettre plein de choses, y compris en musique. C'était une transmission de la musique qui était peut-être plus naturelle, plus populaire que d'autres types de musique.
Alors, je pense qu'on peut tout transmettre, mais surtout, quand on va suivre des cours d'occitan, on va s'approprier notre culture. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on n'était même pas conscient que c'était occitan, et puis on suit un cours d'occitan, ou on discute avec quelqu'un qui travaille sur l'occitan, et on s'aperçoit que finalement, pégay, ça veut dire coller. On ne le savait même pas. L'autre jour, j'étais dans une réunion, moi, à Nîmes, il y a une dame qui me dit « Ouh, aujourd'hui, je suis complètement dévarié. » C'est impeccable, ça y est, vous parlez occitan. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, on n'est pas du tout conscient que c'est de l'occitan, et l'occitan, il est encore aujourd'hui présent partout. Et c'est aussi se réapproprier sa culture. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais au lycée Théophile Roussel à Saint-Chély-d'Apcher. Et au moment de la réunion parents-prof, il y a une dame qui vient, une maman, et qui me dit « Écoutez, je voulais vous rencontrer parce que, en fait, vous avez fait un bien fou à la famille. » J'ai dit « Waouh, bien fou à la famille !» Et alors, en fait, elle m'a expliqué que sa fille parlait, en fait, occitan de la maison, hein, puisqu'on parlait encore occitan à la maison, et elle avait honte de cette langue. Elle est venue en cours d'occitan, elle s'est aperçue que c'était une langue à part entière et pas une sous-langue comme on le dit souvent ou comme on le présente souvent, qui avait une culture que, par exemple, les troubadours dont on parle souvent sans savoir qu'ils écrivaient en occitan, qu'ils parlaient en occitan, qu'ils chantaient en occitan, mais c'était la culture qui était presque à la base culturelle de toute l'Europe, en tous les cas en ce qui est littérature, puisque même encore aujourd'hui, que ce soit en français, en anglais, on sent l'influence des troubadours. Et en fait, de voir que tout ça, c'était de l'occitan, que c'était sa langue, la langue qu'elle avait à la maison, elle s'était finalement réappropriée sa culture et elle devenait fière de ses racines. Waouh, quand elle m'a dit ça, j'en avais les larmes aux yeux. Voilà, donc en fait, l'occitan, il est présent partout, il faut juste avoir les yeux pour le regarder. Voilà. Et les oreilles.
Et puis ce qui est beau avec les langues, c'est qu'elles s'influencent les unes et les autres, et parfois on n'en a même pas conscience. Par exemple, là, on est dans votre salle de classe en ce moment, et donc il y a des affiches où il y a le mot requinqué et le mot lagnac. Et moi, j'adore ces mots en plus, je les utilise souvent et je les adore. Et je ne savais pas que je viens de l'apprendre, je ne savais pas qu'ils venaient de l'occitan, et du coup, c'est génial, c'est des mots qu'on utilise tous les jours.
Et je trouve aussi que le fait de s'intéresser à la culture, la langue, la manière de nommer les choses, l'endroit où on vit, l'endroit où on est en relation avec les territoires, les gens, les paysages, nous permet d'avoir une ouverture plus large sur la culture des autres, sur toutes les cultures. Et en fait, du coup, au contraire de refermer quelque chose, ça crée une ouverture, ça crée une capacité à observer, à accueillir la différence et à créoliser nos manières de vivre, quoi. Voilà, à accepter ces influences, toutes ces influences et toutes ces richesses.
Avoir deux langues dans sa vie, c'est deux clés pour voir le monde. C'est pas de moi, mais c'est de voir. Ouais, t'avais Roulin Pécou qui est d'Isio, dos lingua. Non, bon, là il passe plus, voilà, j'ai perdu. Deux langues, c'est deux clés pour ouvrir le monde. Ok.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Abans de continuar sus las festivitats del dissabte, baki una pausa musicale. Avant de continuer sur les festivités du samedi, nous faisons une pause musicale. We'll be right back.
Nous sommes toujours en direct du collège Marcel Pirel pour vous parler du Festoc et de son programme riche en animations pour les grands et les pitchouns. Louise, parle-nous de ce qu'il se passera le samedi 13 juin.
Le rendez-vous est donné à 14h30 sur l'esplanade de l'Europe pour un jeu de piste destiné aux 8-11 ans. L'objectif est de découvrir un personnage célèbre de Marvejol, Sikart des Marvejol.
Pouvez-vous nous parler du thème de ce jeu ?
Non, c'est un jeu de piste, c'est le principe du jeu de piste, c'est-à-dire qu'on a des indices au début, ensuite on va marcher dans la ville et repérer des nouveaux indices qui sont cachés dans la ville. Donc, ce jeu de piste il a été préparé par l'association Hotby qui défend justement le bilinguisme. Donc voilà, et d'indice en indice on arrive au résultat final.
Qui est Sikart de Marvejol ?
Non, alors là je bafouille parce que en fait l'idée c'est de pas révéler le nom du personnage. Le nom du personnage mystère, donc bon. Voilà, on enchaîne. Ouais.
Merci. À quelle animation sert Rico en Descurbeto ?
À quel joke des pistes sert après proposade par l'association Hogby 48. Ce jeu de pistes est proposé par l'association Hogby 48.
Digo Julia, de qu'est-ce qui se passe au Puy ?
Le jeu de piste est un petit échauffement car pour la suite de l'après-midi, place au sport. Le sport occitan bien sûr. De 15h à 17h, toujours sur l'esplanade, il y aura une initiation au tambourin, tambourounette en occitan, proposée par l'association Zoupetasun.
Casacol ou tambourounette, de quelles sont les règles ?
Alors, le tambournette, donc c'est un jeu qui n'est pas joué qu'en Occitanie, contrairement à ce qu'on pense souvent, puisqu'on a même des joueurs professionnels de tambournette en Italie. Donc là aussi, on a une Coupe du Monde de tambournette et on a plusieurs pays qui jouent au tambournette. Donc le pays du tambournette, c'est par excellence Gignac, où on a encore une fabrique de tambournette. Et en ce qui concerne les règles, donc c'est un jeu qui descend du jeu de paume. Et en ce qui concerne les règles, alors là tu me prends un peu au dépourvu parce que ça fait quelques temps que j'y ai pas joué. Donc on joue à 5. On a 5 contre 5, oui, voilà, on me souffle en fait. On joue à 5 contre 5, on a un tambouri, une balle qui est très dure, mais souvent quand on joue en initiation, on joue avec une balle de tennis. Et ben, c'est proche du tennis, en fait, on doit renvoyer la balle d'un côté à l'autre avec trois joueurs, deux joueurs en fond, un au centre et deux devant.
Merci. Avez-vous déjà vu un tournoi ?
Non, j'ai pas vu de tournoi, désolé.
Louise et Julia vont poursuivre sur le programme du Festoc.
Père Buffa, après Poutan Brunet, Poudetfa, une passe à Giado.
À 16h, l'association Hogby 48 propose une balade contée pour les 4-7 ans. L'objectif est de partager des éléments de la langue et de la culture occitane.
Quels sont les objectifs de l'association Hogby 48 et quelle est cette association ?
C'est une association qui défend le bilinguisme, donc un peu dans la lignée de ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, que lorsqu'on a deux langues... qu'on partage, ça ouvre une vision du monde plus large. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de dire que l'occitan est bien une langue vivante, qu'on peut parler au même titre que le français, et pas une langue ancienne ou une langue qui serait perdue ou oubliée.
Si je peux préciser un peu, donc Hogby, c'est une association qui est sur tout l'espace occitan, avec la volonté, comme tu le disais, de développer le bilinguisme occitan-français dans les écoles publiques. Et en fait, ils ont plusieurs chargés de mission qui vont présenter dans les écoles, notamment aux parents, les bienfaits, les bénéfices du bilinguisme précoce, pourquoi aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, pourquoi apprendre l'occitan dans les écoles, et qui se passagent dans tout l'espace occitan comme ça, avec cet objectif.
Merci.
Ah, mais plaisir.
Pouvez-vous dès maintenant nous parler des bénéfices du bilinguisme et du multilinguisme à l'école ?
Là, en fait, l'idée aussi de ces jeux de piste et de cette balade comptée, c'est aussi justement de sortir de l'école, donc de montrer que c'est une langue enseignée à l'école, mais qui n'est pas réservé à la salle de classe. Donc, d'où l'idée aussi de faire des activités, des animations. On circule dans la ville et on parle en occitan naturellement, en se promenant, en se baladant dans la ville, en faisant des contes. Et donc voilà, ça montre que c'est des langues qui sont destinées à être dans la vie et pas que à l'école.
Alors pour continuer donc sur les bienfaits du bilinguisme précoce, aujourd'hui on sait qu'un enfant qui sera dans un cursus bilingue va mieux réussir que le même enfant qui est en cursus monolingue. Je m'explique, on a fait des enquêtes là en fait, notamment sur les résultats au brevet des collèges. Mais c'est quelque chose qui vous concerne. Et on s'est aperçu qu'en fait, à indice de positionnement social égal et milieu environnant comparable, c'est-à-dire vraiment le même petit, en maths, il est aux alentours de plus 5 sur 100, le petit bilingue. En français, il est aux alentours de plus 4 et il a aussi une validation en ce qui concerne le socle largement au-dessus d'un élève qui est en cursus monolingue. Voilà, donc en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas seulement dans les langues qui a un bénéfice, c'est aussi en mathématiques, c'est aussi en français, et c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et alors certes, nous on l'a prouvé là avec nos analyses, mais c'est quelque chose qui avait été déjà fait à l'étranger, notamment en Suisse, mais qui avait été déjà fait aussi dans l'Académie de Toulouse. Donc ça, c'est certain. Aujourd'hui, si on suit un cursus bilingue, langue vivante régionale, on ne sera pas obligatoirement un génie, mais on aura mieux réussi que si on était en fait en cursus monolingue.
Merci, Pla. Comment fonctionne un cursus bilingue dans une école, par exemple celle de Marvejol ?
Alors en fait, un cursus bilingue dans l'enseignement public, c'est un cursus bilingue à parité horaire. C'est ce qu'on a. Alors on a d'autres possibilités, hein, mais donc c'est 12 heures en français, 12 heures en langue occitane, sachant que du coup, ce n'est pas l'enseignement de la langue, c'est les disciplines qui sont enseignées dans la langue, notamment l'histoire, les mathématiques. Et alors en fait, là, je ne sais pas si vous avez entendu, l'an dernier, non, ça passe tellement vite que c'est en 2021, donc ça fait déjà quelques temps, il y a une loi qui est sortie qui s'appelle la loi Molac. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc en fait, suite à cette loi, il y a une circulaire sur l'enseignement des langues vivantes régionales à l'école. Et donc maintenant, on a différentes modalités. Alors on a ce bilinguisme à parité horaire, mais on a aussi quelque chose qui s'appelle l'immersion, l'enseignement immersif, qui jusqu'à maintenant était possible uniquement dans les écoles associatives. En ce qui concerne l'Occitan, c'est les écoles qu'on appelle les calendrettes, mais qui maintenant est possible aussi dans l'enseignement public à partir de la petite section. L'enseignement immersif, donc c'est 100% en Occitan, jusqu'à la fin du CP. On apprend même à lire en Occitan et on passe au français à partir du CE1. Après, on a une autre modalité plus légère qui s'appelle l'enseignement renforcé, où là, c'est en fait entre 3 et 11 heures de discipline non linguistique dans la langue, c'est-à-dire que là aussi, l'histoire est enseignée en Occitan, par exemple, ou les maths. Ça, c'est l'équivalent de, je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà, des écoles Émile en langue vivante étrangère. Voilà, en ce qui concerne le bilinguisme, donc trois possibilités dans nos écoles publiques françaises.
Merci, Blanc. Soline parla nos de la dictade de que se débagnara à 4 euros.
À 4 euros, il y aura une dictade occitane en cristal cos. Tous à vos stylos et à votre plus belle écriture. Les gagnants seront récompensés.
Ce n'est pas un peu risqué d'organiser une dictée un week-end ?
Mais on aime le risque.
Trop tard, le risque est pris.
Et puis écrire et faire une dictée, quel plaisir, franchement.
Non, mais l'animateur de la dictée qui est à ce micro, le micro à côté du mien, saura la rendre le plus ludique possible pour pas que les gens aient l'impression d'être trop à l'école.
Vous-même écrivez-vous l'occitan ? Comment avez-vous appris à l'écrire ?
Alors, moi l'occitan, en fait, je l'avais entendu parler quand j'étais petit, mais moi je ne le parlais pas. Dans ma famille, on le parlait, mais je pense que c'était la génération avant celle de mes parents qui le parlait. Donc en fait, je l'avais entendu, mais je ne l'avais pas pratiqué plus que ça. Et puis en fait, j'en avais fait un peu au lycée, mais peu en fait, et quand je suis arrivé à l'université Paul Valéry, où j'étais étudiant en lettres, j'ai pris l'enseignement de l'occitan comme langue. Et là, une découverte incroyable. Je me suis pris de passion pour cette langue, pour cette culture, pour cette littérature. Et du coup, je voulais devenir prof de français et j'ai changé complètement. Et j'ai dit, moi, je veux faire un prof d'occitan. Voilà. Et le chemin était tracé. Alors, je pense qu'en fait, ce qui m'a particulièrement touché et ce qui a fait que je suis allé vers cette langue-là, ou en tous les cas, que j'ai eu envie de défendre dans cette langue-là, c'est quand j'ai appris des choses comme le signal, hein, par exemple le signe, vous avez dû en entendre parler, hein, dans vos cours d'occitan, c'est-à-dire que les enfants, leur langue maternelle c'était l'occitan, ils arrivaient à l'école, ils parlaient français, ils avaient absolument interdiction de parler occitan, et s'ils parlaient occitan, ils étaient punis, on leur donnait ce qu'on appelle le signal ou la dame patoise parfois, et ils étaient chargés d'espionner leurs camarades. Le premier qui parlait occitan prenait possession de ce signe, de cette croix ou de cette petite pièce. Et le dernier qu'il avait, le soir, était puni. Et souvent, vraiment puni. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, en fait, le fait de parler occitan était mis au même rang que les fautes qu'on pourrait qualifier de morales. Et on avait des choses, par exemple, sur les murs des écoles à cette époque-là, et ça, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est l'école de Jules Ferry, même si c'est un peu vieux quand même, mais c'est l'école de Jules Ferry. On avait des choses écrites sur les murs, comme il est interdit de cracher par terre et de parler patois, le patois étant les langues régionales en français, soyez propre, parlez français. C'est-à-dire qu'on mettait même le fait d'être sale au même niveau que le fait de parler une langue régionale. Voilà, donc quand on apprend des choses comme ça, je sais pas, moi j'ai eu envie de prendre mon drapeau et de devenir militant occitan et de parler cette langue et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui la parlent.
Son drapeau rouge et or.
Rouge et or, voilà. Bah, il est là d'ailleurs, tiens. Et là.
Quel conseil donnerez-vous pour faire le moins d'erreurs possible?
Pour faire le moins d'erreurs possible en occitan? La dictée, c'est sûr, c'est une obligation, surtout samedi après-midi. Et ensuite, non, ce que je peux vous dire, c'est lire, écouter des émissions radio, des émissions télé. Vous savez que maintenant, on a par exemple, bien sûr, l'émission Vivre à Païs, mais on a aussi sur Internet, notamment TV, on a TVOC, on a OC Télé. Donc, lire, écouter des émissions, que ce soit des émissions radiophoniques ou télé, écouter de la musique, voilà, et puis pratiquer, parler.
Merci. Et ar aprep abis usat sus bostro copio, une poc des dents.
À 17h, le groupe folklorique de la Quatrette Chiracoise viendra danser sur l'esplanade de l'Europe. Benet découvrit et apprenait las danzas tradicionales occitanas. Découvrez et apprenez les danses traditionnelles du folklore occitan qui rythmaient la vie d'autrefois. La Quatrette Chiracoise est un groupe des 48 danzaire qui dansent sur l'accordéon, la cabrette et la bielle à rodo. La Quatrette Chiracoise est un groupe folklorique composé de 48 danseurs qui, vêtus de leur costume traditionnel auvergnat aux couleurs variées, évoluent au son de l'accordéon, de la cabrette et de la vielle à roue.
Justement, en parlant de musique et avant de continuer sur la dernière partie de notre émission, voici une pause en chanson.
Si antes la fa, malgrat que no es prendrà, de peu انا يا بغيت الخواد ديال ما تسالني وما ننساني وما تديك سمنا غير دير بعضاتا وما تديك سمنا غير دير بعضاتا يا بغيت الخواد ديال ما تسالني وما ننساني يا بغيت الخواد ديال ما تسالني وما ننساني وما تديك سمنا غير دير بعضاتا
Voici pour la dernière partie de l'émission spéciale Festoc, où il y aura beaucoup d'animations, mais il ne faut pas oublier de remplir son estomac. C'est Poudra Manja, une kikounet, un akel festenal, Maëlys.
Plan Segur, Lucia. À partir des 6 ouros et Mieja del Tantost, à partir de 18h30, un repas sera servi par les associations des parents d'élèves, la SEAP de l'école publique de la Coustarade et le foyer socio-éducatif du collège Marcel Pirel.
Père Fietch. Maëlys va aborder le thème central de cette édition, le feu de la Saint-Juin. Mais d'abord,
cette année encore, les élèves de l'école de la Coustarade nous régaleront et chanteront à 19h30, accompagnés par le trio de la bande acoustique.
Marie-Madeleine Bonjour, faites partie del groupe de la bande acoustique. Nous pouvons parler à quel groupe de musique, à quel genre musical appartiennent des caisses, bostres et univers musical.
Alors, la bande acoustique, c'est avant tout de la musique festive, de la musique pour danser, qui relie les deux rivages de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on fait certains traditionnels d'Occitanie et du Maghreb réarrangés, mais aussi beaucoup de compositions qui parlent de notre regard sur le monde d'aujourd'hui, de nos envies, de nos désirs, d'ouverture, d'embarquer dans un bateau les différentes cultures qui composent la Provence d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est de la musique festive sur laquelle on peut danser soit des danses traditionnelles, cercle circassien, chapeloise, scottish, etc., soit exactement ce qu'on a envie de danser, parce que ça, on le fait très bien aussi.
Merci.
Quels instruments de musique ou sonorités inspirent votre musique ?
Alors, c'est très méditerranéen, en effet. Donc, il y a de l'accordéon, donc diatonique, chromatique, il y a de la guitare, on est beaucoup d'entre nous, on est trois donc, multi-instrumentistes, donc on joue pas de tout en même temps, hein, mais des fois on change d'instrument. Guitare, violon, percussion, cajone, tambour sur cadre, bendir, enfin voilà, il y a une multitude d'instruments différents. Et un rebab aussi, que peu de gens connaissent, qui est un violon traditionnel berbère, et donc qui se joue avec une seule corde, faite en crin de cheval, et un arc qui fait l'archer. Et c'est assez fabuleux ce qu'on peut entendre avec une seule corde. Voilà.
Comment se sont passés les ateliers avec les élèves de l'école et du collège ?
Très bien. Non, ça s'est fait... je vous ai peu vu du coup, puisqu'on s'est vu deux fois, hein, on a eu deux séances de travail et dans les écoles primaires et au collège, mais en deux séances je trouve que c'est super la manière que vous avez eu de vous approprier les choses, l'écriture de la chanson qui est vraiment magnifique, qui raconte plein de choses très belles, ouvertes justement sur le voyage et la migration. Donc moi je trouve que c'est un très beau projet et on va avoir beaucoup de plaisir à le partager avec les auditeurs.
Les élèves ont-ils donné des idées pour les chansons que vous interprétez ?
Eh bien, exactement. Ils ont écrit, les élèves, ils ont écrit une chanson sur l'hirunde, donc l'hirondelle, qui est un oiseau migrateur et qui, donc, part de nos régions d'Europe pour aller jusqu'en Afrique. Voilà, une autre manière de relier les rivages de la Méditerranée.
Avez-vous également animé un atelier de chant à la médiathèque mercredi dernier ?
Tout à fait. On a passé un très joli moment, très intimiste, avec un petit public, tout petit public choisi, mais il n'était pas choisi, hein, il s'est choisi tout seul. Mais ils étaient peu à s'être choisis tout seuls. Mais c'était un super beau moment, avec des enfants, des adultes, et des enfants qui ont eu vraiment beaucoup de plaisir à partager aussi les chants qu'ils avaient appris en classe.
Quel type de chansons transmettez-vous pendant ces ateliers ? Des chants traditionnels occitans, des techniques vocales ?
Alors bon, technique vocale, on a peu de temps quand même pour aborder l'instrument du chanteur en profondeur, mais dans les échauffements que je propose, j'essaye, sans passer par la compréhension sémantique, sans forcément utiliser le cerveau, d'être quand même dans le réveil du corps du chanteur, qui est son instrument, et de pouvoir placer la voix, placer le rythme. Donc dans les échauffements, vous l'avez vécu, il y a quand même un petit peu de ces choses-là, très rapidement survolées. Et après, au niveau du répertoire, il y a là pour le coup un répertoire qui a été en partie créé donc par vous, les élèves. Il y a un chant traditionnel qui est un chant à compter, comme on retrouve beaucoup dans tout un tas de traditions, mais beaucoup dans les musiques occitanes. Et le troisième, c'est un chant qui a été créé par la Talbert et qu'on a fait le choix là pour ce projet-là de traduire en partie. Donc on le chante en bilinguisme occitan-français.
Vous-même, avez-vous appris à parler occitan en famille, à l'école ?
Alors moi, j'ai appris ni en famille ni à l'école. Mon grand-père a fait partie des personnes pour qui la langue a été interdite à l'école, donc il ne l'a pas transmis à mon père. Je suis arrivée avec cette langue par le chant. Voilà, parce que j'ai beaucoup voyagé avec mon accordéon et ma voix, et puis on a eu l'occasion de vivre une expérience humaine et musicale très enrichissante en Bulgarie, pendant un mois, où on a suivi des musiciens bulgares qu'après on a fait venir en France, avec qui on a créé un projet franco-bulgare. Et à la suite de cette aventure où la culture musicale et chantée était tellement présente, avec l'ouverture vers les musiques très modernes, comme le jazz, la musique contemporaine. Mais voilà, tout le monde sait chanter des chants en commun dans tout le pays, tout le monde sait les danses en commun, toutes les générations. Au retour de ce voyage, on s'est demandé, et alors, mais chez nous, où c'est passé ? Et c'était l'envie de retrouver le lien avec ces cultures qui n'ont pas disparu, bien heureusement, mais qui ont été étouffées, qui m'a donné envie, qui nous a donné envie de repartir dans la création en occitan. Donc avec la bande acoustique, c'est beaucoup de création, de composition. Et dans un autre groupe où je chante, qui s'appelle Tankélicien, on met en musique de la poésie populaire provençal. Voilà d'où vient ma relation à la langue.
Que représente pour vous la Méditerranée ? Une frontière ou un pont entre les peuples ?
Plutôt un pont, plutôt un endroit de mixité, en fait. Je pense que nos cultures sont vouées à s'enrichir de celles des autres. Et donc, plus on est en lien avec notre culture propre, plus on est en mesure d'accueillir celles des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je le ressens, du coup, la Méditerranée, comme un espace d'échange, un espace de rencontre. on a quand même déjà beaucoup de choses en commun, de tous les côtés de la Méditerranée. Et du coup, tout ce qui n'est pas en commun peut être un enrichissement et voilà, ouvrir une curiosité et un plaisir à rencontrer la différence.
Comment le public réagit quand il ne comprend pas les paroles ?
Eh bien, ça dépend avec quelle langue, figurez-vous. Parce que ça ne dérange personne d'entendre chanter anglais de partout, même si on ne comprend pas. Et beaucoup plus, même des gens qui se disent proches des langues occitanes, nous en tout cas en Provence, on en a beaucoup, qui arrivent et qui disent « c'était pas du provençal hein, ça, parce que je n'ai pas reconnu, hein, c'était… » si. Alors la meilleure façon c'est de commencer à le parler et après, voilà… C'est ressenti très différemment suivant les personnes. Il peut y avoir un grand plaisir à entendre une sonorité reconnue ou inconnue et à voyager avec elle. Et il peut y avoir une espèce de fermeture et de rejet de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est assez personnel, je crois.
Merci. Nous allons maintenant terminer avec la fin de la soirée de ce Festoc.
À 20h30, le trio de la bande acoustique donnera un premier concert. Ensuite, à 21h30, ce sera le départ du spectacle Phoenix de la compagnie La Fulgurée. C'est un spectacle en déambulation réalisé avec le concours des musiciens de l'Étoile Marvejolaise, les cyclistes locaux, les participants au dispositif Atom, satellite du Clos du Nid, les gymnastes de la gymnastique sportive Marvejolaise et les danseuses de Las Marvejolinas.
À 22h30, le spectacle Phoenix terminera sa déambulation et arrivera sur l'esplanade de l'Europe. Les élèves de l'école de la Coustarade et du collège Marcel Pirel, accompagnés par le trio La Bande Acoustique, interpréteront les chants créés et travaillés en atelier dans les établissements. Le trio La Bande Acoustique donnera ensuite un concert.
Merci. Alexis Lormeau, parlez-nous du grand final avec le feu. Comment cela se passera-t-il ?
Ben, donc la déambulation du spectacle Phoenix se termine, on arrive tous sur l'esplanade de l'Europe, on entend effectivement les chants, vous-même en fait, les chants des collégiens, voilà. Puis on allume un grand feu de la Saint-Jean, c'est la tradition au solstice d'été. Et là, l'idée, c'est de faire un bal populaire, de tous danser très chaleureusement, donc en musique, en chanson, et puis tous celles et ceux qui le souhaitent pourront danser. Voilà, c'est de finir par un grand moment aussi convivial que possible.
C'est la fin de notre émission. Nous remercions tous les invités présents, Christophe Cos, Alexis Lormeau, ainsi que le trio La Bande Acoustique d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à 48FM d'avoir supervisé l'émission. Nous vous donnons donc rendez-vous dès le 13 juin pour le Festoc. Sachez que c'est un événement entièrement gratuit et que vous pouvez venir en famille assister ou participer aux ateliers, aux projections, aux concerts, à la déambulation. Merci à tous les nombreux partenaires de ce festival en Gévaudan. Vous trouverez le programme et les dernières actualités sur les réseaux sociaux du Trianon Marvejol, Facebook et Instagram. Alcop Keben.
Eu que sou livre de pensar sem gest de pau. Vou lá tudo sense virar l'aventure. Per profiter chaque dos segundo precioso ouvido. Al dessus de la mar brillante, boli boli. Vira volte gracie amour per toujours. Des Pyrénées à Gibraltar, per Congo, jus soleil, jus la pleggio, caressi la terre. Cambella da balado, l'irundo se prépare, que bolo sur la mar, mes forces et espérances, dis-nous c'est bleu des morts. L'irundo blanco-negro que porte le soleil, sus asalos leggeros.